L'art en boîte.
Pourquoi l'art est si cher?
Doit-il être beau?
Faut-il être torturé pour être un artiste?
L'art en boîte,
l'émission qui rend l'art accessible et où les artistes répondent aux questions les plus sensibles. Une émission de Myrtille Maillot-Dequeiro,
un samedi par mois à 17h30 sur le 93.9.
Elle a été au cœur des débats et de l'actualité au mois de mai 2024, Déborah de Robertiste, artiste franco-luxembourgeoise, qui a récemment bombé d'un MeToo quelques œuvres, notamment la photographie Action Shoes Genital Panic de Valley Export et trois autres tableaux au Centre Pompidou de Metz. On a beaucoup entendu parler de toi, donc, et notamment d'actes criminels, de vandalisme. Mais qu'est-ce que dénonce véritablement cette action? Pourquoi donc, l'artiste contemporaine a-t-elle choisi ces tableaux en particulier? Pour y répondre, nous sommes avec Déborah de Robertiste qui a accepté de participer à cette interview. Merci Déborah et bienvenue.
Alors oui, je voudrais juste préciser, c'est important, que les deux performeuses qui ont participé, donc c'est Eva Vox et Laure Pépin, qui ont donc participé à la performance et qui ont tagué les œuvres. Et moi, j'ai donc volé une œuvre qui s'appelle Je pense donc je suce, une œuvre d'Annette Messager. C'est vrai que les gens ont tendance à dissocier cette performance, donc je vais en profiter pour rassembler les éléments. Donc il y a évidemment tag des œuvres, dont mon œuvre, ça c'est important. Il y avait ma pièce donc, qui s'appelle Miroir de l'origine, qui a aussi été taguée, donc ça me paraît un élément important puisque la performance a été très critiquée. Comme quoi je m'attaquerais à des œuvres féministes alors que je m'attaque à travers des œuvres féministes au patriarcat. Ensuite, donc il y a le vol de l'œuvre, comme je viens de le dire, et il y a aussi une vidéo que j'ai sortie au même moment où on voit donc que c'est un portrait que j'ai tourné il y a une douzaine d'années, juste après mes études, dans le cadre d'un projet que j'avais appelé à l'époque Les Hommes de l'art, parce que je commençais à me rendre compte qu'il y avait un problème. Puisque je me faisais, comme dans cette vidéo, systématiquement invitée dans des lieux officieux, comme on le sait maintenant, des chambres d'hôtel, des salons. Et donc il y a cette vidéo qui fait partie des éléments de cette performance et un texte, une lettre ouverte.
Ouais, c'est une performance assez riche. Il y a cette lettre ouverte qui est encore accessible donc, sur Internet, qui dit beaucoup de choses, donc qui aussi porte des accusations. Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi tu as fait le choix donc, de la rendre ouverte?
Pour moi, la lettre ouverte, elle fait partie de toute la scénographie de la performance. C'est-à-dire que c'est pas, je ne peux pas les dissocier. Il était important, pour moi personnellement, mais aussi pour la compréhension de la performance, que je puisse mettre des mots. Et en effet, la façon dont j'ai choisi de le faire, c'est de façon assez personnelle. C'est-à-dire que je m'adresse directement à ces hommes de pouvoir du milieu de l'art. Et le but était de dénoncer, bien sûr, un système de domination dans le monde artistique tel que moi je l'ai vécu, avec mes mots, avec ma subjectivité. En fait, on peut remarquer dans mes performances que jusqu'ici, j'ai jamais vraiment parlé de moi, dans le sens où il y a une forte critique institutionnelle, une critique du patriarcat. J'ai toujours parlé d'un point de vue très conceptuel. Et ici, je parle peut-être pour la première fois de mon expérience personnelle en tant que femme et en tant qu'artiste. Et je parle en jeu.
C'est intéressant, c'est une question que je me posais. Enfin, cette lettre, donc là, elle est accessible, mais elle a été pensée donc, dans toute la performance, etc. Mmh. Mais quand est-ce que tu l'as écrit? Est-ce que tu l'avais écrit avant? Est-ce que c'est des choses que tu as pu rassembler pour ensuite constituer cette lettre?
Alors là, pour le coup, comme beaucoup de femmes, le chemin a été long pour pouvoir poser les mots. C'est pas au moment de la performance que je me suis rendu compte des abus. Ça fait des années, j'ai fait beaucoup de psychanalyse, donc ça fait vraiment des années que je réfléchissais à comment aborder la chose d'un point de vue artistique. C'est aussi pour ça que j'ai mis plus de temps à parler, parce que, en fait, même si je m'étais déjà rendu compte, tu me demandes si j'ai écrit. Oui, j'ai écrit de la fiction, par exemple. J'ai écrit un film qui traitait de toutes ces questions-là. Donc, il y a énormément de matière artistique qui est née de tout ça. Et puis, alors, j'ai eu l'idée de différentes performances que je n'ai pas réalisées. Je me demandais depuis très longtemps comment j'allais faire pour incorporer ça dans mon travail. Je ne voulais pas simplement dénoncer. Pour que ça répare quelque chose chez moi, il fallait, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant d'ailleurs, que ces hommes deviennent l'objet d'une de mes performances, puisque d'une certaine façon, c'est rendre objet ceux qui m'ont rendu objet.
Donc tout ça, c'est un projet qui englobe la performance, la lettre, le vol de l'œuvre, les tags donc même de ton œuvre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la composition de cette performance? Comment tu as eu l'idée, donc avec les deux performeuses aussi? Comment ça s'est passé?
Pour des raisons juridiques, je rappelle qu'il y a deux performeuses qui ont participé, mais c'est moi qui ai organisé cette performance. Donc il n'y a personne d'autre, ce n'est pas un collectif, je ne suis pas un collectif, je travaille toute seule. Et une organisatrice, et c'est moi. Mais certaines personnes, pour des raisons féministes, certaines femmes participent à à certaines performances, mais en tout cas ne sont pas impliquées.
Et pourquoi tu as ciblé justement cette institution précisément ?
Donc, je rencontre des représentants du Centre Pompidou-Metz. Il se fait qu'ils connaissent mon travail et il y a un rendez-vous qui s'organise avec le Centre Pompidou-Metz, au Centre Pompidou-Metz d'ailleurs, dans le cadre de l'exposition Lacan, l'exposition, qui n'est pas du tout encore en cours hein, et qui justement est en train de se faire. À ce moment-là, lors de ce rendez-vous, je me rends compte que le curateur, c'est donc Bernard Marcadet. Je ne le savais pas avant d'être sur place. Et là, je suis sidérée.
Pourquoi ?
Parce que, en effet, c'est un homme que j'avais rencontré quand j'étais plus jeune, avec qui j'ai plus de contact à ce moment-là. Ça faisait longtemps que je me demandais comment dénoncer les faits de l'époque. Les enjeux pour moi, ils sont importants. De rentrer enfin dans une exposition. En plus, c'est une exposition importante. Mais j'ai peur parce que je me dis où ça passe, où ça casse quand il va voir que eux, le Centre Pompidou, va proposer au curateur. Et puis là, j'attends la réponse, si ça va être oui ou non. Et en fait, je reçois un mail et c'est non. Et donc là, c'est vrai que quand je me rends compte que c'est non, là, je vois rouge, quoi. Là, c'est vrai, quelque chose se joue pour moi d'important, parce que c'est un homme qui a abusé de sa position avec moi quand j'étais jeune, mais je suis aussi passée, comme beaucoup de femmes, par des doutes. Et puis, il y avait une autre blessure dont je parle beaucoup dans ma lettre ouverte aussi, c'est le fait d'avoir eu la sensation qu'il y avait des barrières qui avaient été mises, que mon travail a été, on va dire, étouffé. Et je le dis dans la lettre, caché comme mon sexe. Et donc... Ça, longtemps, je me suis demandé si c'était... Parce qu'il y a aussi toujours cette culpabilité. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est opportuniste de vouloir que mon travail soit exposé ? Et puis, puis ça voudrait dire que c'est un troc. Quand je racontais ça avant, quand je racontais à des femmes, à des hommes, avant MeToo, etc., que j'étais en colère que mon travail ne soit pas exposé, des gens qui savaient qu'il y avait un certain rapport avec, par exemple, Bernard Marcadet, mais ce n'était pas qualifié, malgré la différence d'âge, malgré la différence de position, ce n'était pas du tout qualifié d'abus. On appelait ça la coucher. Et maintenant, on parle quand même d'agression sexuelle, d'abus de pouvoir, de viol, donc c'est quand même encore autre chose. Et donc, c'est vrai que pendant très longtemps, je me suis posé la question, j'avais un doute, je me suis dit, mais est-ce que c'est légitime de vouloir que ton travail soit exposé ? Et c'est vrai que... En tout cas, pendant toutes ces années, évidemment qu'il y avait une gêne, même une honte, même un sentiment d'humiliation du fait qu'il n'ait rien fait pour soutenir ce travail. Sachant que dans ce travail, dès le départ, il a toujours été question de mon corps et de mon sexe. Là, cette fois, j'avais peut-être pour la première fois, je savais la preuve. La preuve que, pas la preuve de l'abus, mais quand même la preuve qu'il avait, dès le départ, utilisé sa position et son intérêt pour mon travail pour abuser de mon corps. Et donc,
quand tu dis à ce moment-là, c'est quand tu reçois le non,
ouais.
C'est ça ?
Je le savais, mais là, j'avais vraiment la preuve. Parce qu'il aurait pu dire oui. Enfin, je veux dire, ça veut dire que dès le départ, quand je l'ai rencontré, quand j'avais 26 ans, il n'a jamais eu l'intention de soutenir publiquement et politiquement ce travail-là. Et je me rends compte que je suis de toute façon à une étape de ma vie où j'ai fait beaucoup de travail... sur l'artistique et personnel sur la question, et genre je laisserai pas passer. Je commence à... Mais après, j'opère toujours de façon stratégique. Hein. On croit que mes performances sont impulsives, etc., que ça part de... Non. Ça, à partir de là, je mets les choses en place pour que ça fonctionne, comme je le fais toujours. Et donc, je peux pas... si je dénonce tout de suite, je perds l'exposition. Donc, je peux pas dénoncer tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une... Oui, ils ont déjà dit non, mais là, je me dis, je vais les faire changer d'avis. Et donc, je commence à, on va dire, militer ou sur les réseaux, à confronter surtout le Centre Pompidou-Metz, parce que c'est eux qui m'avaient invité à la base. À un moment donné, de plus en plus, mais sur des questions sans dénoncer. De toute façon, mais je pense que tout le monde comprend les enjeux. Moi, ça, j'en ai la conviction. Et ils avaient juste peur, et ça m'a été confirmé par la suite, d'un scandale, quoi. À un moment donné, ils m'appellent, j'ai un coup de fil, et c'est là où tout se passe. Quand plus je dénonce sur les réseaux, comme je vais de plus en plus loin dans ce que je vais dire, et que dès que je commence à faire une toute petite allusion sur le fait qu'ils connaissaient, j'avais dit ça intimement, mon travail, j'avais mis ça entre guillemets, donc il y a une petite allusion sur l'abus de pouvoir, j'ai le téléphone qui sonne quelques jours après. Et c'est à ce moment-là que tout se joue. Moi, j'étais prête à cette conversation depuis des années. Et là, je lui rappelle les faits. Et suite à ça, je ne peux pas aller vraiment dans les détails, mais suite à ça, en tout cas, toute la situation de pouvoir se renverse. Et je suis
intégrée à l'exposition.
Ah oui, invitée à l'exposition, mais plus que ça. C'est-à-dire que souvent pour rire, je dis, je sais enfin ce que c'est. Enfin, j'ai enfin senti ce que c'était d'avoir une bite, en gros. Non, c'est-à-dire que le rapport s'inverse complètement. Tout le monde à l'exposition, je les vois, ils sont craintifs. Je m'en rends compte parce qu'on m'a jamais. On passe du mépris à vraiment. Je ne sais pas comment dire. Ils étaient aux petits soins, quoi. Est-ce que ça, je me rendais bien compte, même si j'en ai joui, en effet, parce que c'était une vengeance. Ça, on parle tout le temps de vengeance dans mon travail, mais ça, c'était une jolie vengeance de voir. Que c'était moi qui avais un certain pouvoir et pas lui. Donc après, l'exposition se passe et moi, je sais déjà. Et tout le long, je le vois...
Tu sais quoi, pardon ?
Je sais que je vais faire une performance.
Est-ce que tu peux juste un peu évoquer l'œuvre qui était intégrée à l'exposition ?
Donc c'est Miroir de l'origine, c'est la performance que j'ai réalisée en 2014 au musée d'Orsay. Et c'est vrai qu'elle était donc bien placée entre Valley Export et Fontana, non loin de l'origine du monde. J'ai toujours dit que j'exposerais à côté de l'origine du monde et c'est vrai que c'est arrivé. C'est vrai que c'est une première victoire pour moi d'être dans cette exposition parmi des œuvres importantes et des artistes que je respecte. Et donc je laisse l'exposition se faire. Quand je vois l'œuvre d'Annette Messager, c'est une petite pièce et je la reconnais tout de suite, l'œuvre Je pense donc je suce, parce que c'est la même pièce qui était chez lui dans ma vidéo que j'ai filmée quand j'étais plus jeune.
Chez lui, chez Bernard
Marcadet. Voilà. Et donc là, j'ai la vision tout de suite de ce que je vais faire et je me dis, je vais me la réapproprier. Ça fait sens, quoi, parce que pour dénoncer, puisque dans la vidéo que j'ai faite à l'époque, il me demande une fellation, comme ça, comme si c'était son dû. Et c'est vrai que j'ai remonté la vidéo pour la performance, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais déjà fait un montage de ce premier projet, mais comme on était avant MeToo, je me rappelle, et c'est pas du tout anodin, j'avais coupé les moments où il me demande une fellation, j'avais pas laissé, parce que j'avais honte, parce que avant MeToo, c'était déjà, c'est encore notre faute, mais alors là, c'était un impensé, même pas un espace où tu pouvais penser que c'était pas toi qui étais responsable de la situation. Et donc, quand je vois l'œuvre qui est la même, la fellation qu'il demande dans la vidéo, c'est presque une mise en abîme. Je pense donc je suis d'Annette Messager.
Cette broderie, justement, ce que tu dis dans ta lettre ouverte, c'est qu'elle était au-dessus du lit conjugal.
Elle était au-dessus du lit. Et voilà, c'est une mise en abîme. Il y a quelque chose d'une évidence entre la vidéo, mon geste, et la question de la réappropriation. Je la prends parce que parce qu'elle était chez lui. Je n'ai pas volé Annette Messager. J'ai volé une œuvre qui appartient à Bernard Marcadet. Enfin, c'est quand même pas du tout la même chose. C'est à lui que je vole quelque chose. Parce qu'il m'a volé quelque chose. Et c'est pour dénoncer ce qu'il m'a volé, violer mon travail, comment il a abusé de sa position. C'est pour ça que je fais tout ça. Et je développe quand même dans la lettre cette question du vol. Donc pour qu'on m'entende, et ça je l'avais bien réfléchi avant, il fallait que je fasse un geste qui ait une certaine puissance ou qui soit quand même précis, quelque chose qui fasse réagir. Et ça a fait réagir. Mais c'est triste que ça n'ait pas fait réagir dans le bon sens. Parce que le vol de l'œuvre, et cette œuvre est censée attirer l'attention sur la vidéo. On parle de la même chose, on parle quand même de sucer. Enfin, je veux dire, moi, je suis très blessée par le manque d'intelligence, de finesse, le manque de recherche, de recontextualiser tout ça. On a beaucoup plus parlé du fait que, a priori, je m'attaquerai à une œuvre féministe que du fait que je me réapproprie une œuvre pour attirer précisément l'attention sur cette fellation très symbolique. On me dit quand même, je veux que tu me suces, c'est tout. C'est d'une violence extrême. Et au lieu de regarder ça, on me regarde moi, comme si c'était moi qui avais été l'agresseur. On est quand même quelques années après MeToo, etc. J'ai attendu avant de faire mon... En plus, je sais qu'à chaque fois que je fais mes performances, c'est toujours mal compris d'abord. Des fois, on me dit que je suis violente, mais ma violence, elle est symbolique. Elle est artistique. Elle est loin, loin, loin de la véritable violence que je dénonce et que nous dénonçons toutes.
Donc, dans ta lettre aussi, et ce que tu expliques là, c'est qu'il y a beaucoup d'abus de pouvoir dans le monde de l'art. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément médiatisé.
Dans ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas eu de MeToo dans le monde de l'art contemporain. C'est ce qu'on m'a confirmé d'ailleurs. En effet, alors moi je suis artiste, donc je procède de cette manière-là, mais ça aurait pu insuffler quelque chose qu'on sent quand même. Ça n'a pas pris, quoi. Dans le sens où ça n'a pas ouvert sur autre chose. Ça a donné lieu, en tout cas, à certaines prises de parole, mais ça, je ne trouve pas du tout par rapport à la violence de ce milieu. Vu quand même la performance que j'ai faite et la, on va dire, la radicalité du geste, je trouve que ça dit quelque chose, le fait qu'il y ait un tel silence, quoi. C'est quand même un très petit milieu, tout le monde se connaît. Je pense que c'est vraiment une des raisons.
Pour lesquelles il n'y a pas eu de MeToo encore dans le monde de l'art.
Ben, en tout cas, par rapport à ce qu'il n'y a pas eu de ben, on se protège, chacun protège sa place. Je pense qu'il y a quelque chose de ça, oui. Malheureusement.
Ouais, donc au sujet de la performance au Centre Pompidou-Metz, comment ça s'est passé? Comment t'es entrée dans le musée?
Non, mais en fait, du coup, bah, j'ai pris l'œuvre et je me suis cassée. Moi, j'ai fait des repérages pendant tout le long de l'exposition. J'ai entendu dire qu'ils étaient hyper à cran parce que je venais à chaque fois. C'est sûr que ça m'a demandé énormément de travail que de réussir à mettre au point tout ça pour que ça fonctionne, parce que le but était quand même que ça fonctionne. Et donc, pour ça, je suis beaucoup dans la stratégie, dans la réflexion. C'est un vrai travail, quoi. Et je me suis entraînée pour vraiment savoir comment être le plus efficace possible pour pouvoir récupérer l'œuvre, quoi. Parce qu'il y aurait eu plusieurs façons de le faire, mais toutes n'étaient pas possibles. Et du coup, il a fallu que je travaille assez, que je recherche assez pour savoir quelle était la bonne façon pour le faire. Et heureusement, ça a été la bonne façon. Et c'est vrai que... Et puis je suis partie.
Et cet acte, t'as le sentiment qu'il a été bien traité, mal traité? Comment quels ont été les retours aussi, même de tes collègues artistes?
Le soutien le plus important est venu du milieu étudiant. C'est vrai que, notamment la lettre que j'ai écrite, la lettre ouverte, a été énormément lu, repartagé sur les réseaux, etc. Donc c'est vrai que ça a fait contrepoids avec le traitement médiatique qui était quand même assez accusateur à certains moments. Il y a eu quelques bons articles, bien sûr. Mais voilà, en grande partie, les étudiants de l'ERG, par exemple, qui est là où j'ai fait mes études d'art, m'ont vraiment très fortement soutenu, même de façon, m'ont contacté. Puis il y a beaucoup de personnes aussi avec qui je suis entrée en contact qui m'ont raconté aussi leurs histoires. Enfin, je dois avouer que ça m'a donné énormément de force pour aussi tenir mes positions, pour me sentir légitime. Donc c'était très important pour moi et j'en profite pour remercier tout le monde. Parce que c'était pas évident de tenir mes positions. J'ai été quand même assez fragile aussi dans cette performance, puisque c'est à la fois c'est une démonstration de force, on va dire, et en même temps c'est l'exposition d'une grande vulnérabilité pour ma part. Donc c'était nécessaire d'avoir tout ce soutien. Les soutiens principaux ont été évidemment aussi les deux performeuses qui, par conviction, ont accepté de prêter leur corps à cette performance que j'ai organisée. Et je pense aussi à cette artiste, Apollonia Sokol, qui, je trouve, a vraiment pris des risques. Voilà, elle m'a soutenue dans le monde et elle dit quelque chose qui n'est pas anodin. Elle dit qu'elle espère que ça ne va pas lui porter préjudice. Et je trouve que c'est assez révélateur. Et donc, je pense aussi, notamment pour le coup, pour des raisons qui sont beaucoup moins bonnes, à l'artiste Jean-Luc Vernat, qui lui a fait partie des artistes comme Valier Export, Annette Messager, qui n'ont pas soutenu. Et lui, il dit carrément, c'est un revenge porn, même pas porn, quoi. Et il parle de la vidéo que j'ai tournée, où je dénonce les violences sexuelles.
Et est-ce que tu peux comprendre que ça a été en partie mal compris?
Donc je peux le concevoir, de la part surtout des personnes qui ne sont pas dans l'art. C'est pas pour ça que je le comprends profondément ou surtout que je l'accepte. Et puis c'est là où justement intervient la responsabilité politique des artistes que j'ai choisis, notamment Valier Export. Donc c'est important de se rendre compte que je m'adresse à elle dans cette performance avec un langage qu'on a en commun, qui est le langage de la subversion, de la transgression féministe, plutôt qu'un manque de respect. Au contraire, c'est une démonstration d'une infinie considération, puisque j'étais et je reste persuadée que ce soit Annette Messager ou Valier Export ont le recul de comprendre ce geste. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Si je parle de responsabilité politique, c'est bien parce que elles auraient eu, et elles ont toujours, si elles le souhaitent, un rôle à jouer. Si Valier Export avait, comme je lui ai demandé, soutenu la performance en disant, par exemple, j'accepte que c'est une collaboration, on n'efface pas le tag, elle aurait pu intervenir en disant, voilà, en prenant une position radicale qui dirait, voilà, on le laisse comme ça. cette position aurait aidé à décriminaliser le geste artistique et pictural plutôt que l'inverse. Et en plus, ça aurait marqué une position forte vis-à-vis du Centre Pompidou. Et puis voilà, ça aurait permis au grand public aussi de voir ce geste autrement qu'un geste simpliste de vandalisme, puisque ce n'est pas le cas. Et ça aurait inscrit, si elle avait pris cette position radicale, le geste artistique dans l'art conceptuel et dans la transgression qui caractérise toute l'œuvre de Valley Export. Et c'est pour cette raison qu'à travers cette performance, je dialogue avec son œuvre. C'est important de soulever le fait que mon œuvre Miroir de l'origine va se situer à côté, juste à côté de celle Genital Panic de Valley Export. Et mon travail a souvent été comparé à son travail et j'ai utilisé aussi son travail comme référence. Et ce n'est pas anodin qu'on se retrouve donc côte à côte exposé par ce même curateur. Ça aurait encore été tout autre chose si j'avais débarqué à une de ses expos sans raison. Ici, ce que mon geste met en évidence, c'est aussi le fait que nous toutes sommes exposées par un curateur qui, d'une certaine manière, instrumentalise des œuvres féministes, ce que démontre quand même ma vidéo où il tient à minima des propos extrêmement sexistes, si pas plus. Et en ce sens, je lui demande de prendre position. Alors, pour revenir sur le langage artistique, je disais que je parle, on va dire, la même langue que ces artistes transgressifs. Je pense notamment à Annette Messager, pour citer un exemple concret, qui, dans une de ses conférences qu'on retrouve sur Internet très facilement, parle de la question du vol. Elle dit littéralement « je pique, je vole » et parle du vol comme étant quelque chose que font tous les artistes. Et quelque part, ma performance met en œuvre exactement les propos qu'elle tient. Et c'est ce que je fais tout le temps dans mon travail, c'est-à-dire confronter les institutions. Et ici, on pourrait dire que je prends au mot Annette Messager pour justement, non pas l'affronter, mais pour, au fond, c'est du soutien féministe et politique que je demande en faisant ça.
Et pourquoi, dans ce cas, tu n'as pas prévenu Valley Export ?
C'est intéressant que tu poses cette question. En effet, on me l'a beaucoup posée, donc j'en profite pour y répondre. Donc, déjà, si je l'avais prévenu, ou si j'avais prévenu qui que ce soit de ce que j'allais faire, parce que personne n'était au courant que j'allais voler une œuvre, par exemple. Si j'avais prévenu Valley Export, je l'aurais posé en complice de la performance. Donc le fait de ne rien dire, c'est aussi lui éviter quelques problèmes. Et deuxièmement, évidemment que quand on est performeuse ou quand on est artiste, et je suis sûre que Valley Export le sait aussi bien que moi, c'est prendre beaucoup trop de risques que de prévenir ou de demander une autorisation. Déjà, si on voit la proximité de certains artistes, notamment Annette Messager et le curateur, ça me mettrait en position délicate et ça mettrait peut-être à mal une organisation de 8 mois ou 6 mois de travail pour cette performance. En pesant le pour et le contre, j'ai préféré me dire qu'elle comprendrait. Je suis convaincue que la forme que j'ai donnée à cette performance est tout à fait lisible pour les artistes à qui je m'adresse. Et en reconnaissant cette performance comme une œuvre artistique et non du vandalisme, elle aurait pu et elle pourra encore reconnaître l'importance que je donne à son œuvre et comment cette inscription MeToo inscrit finalement Genital Panic dans la suite de notre histoire féministe commune.
Donc, tu es mise en examen. Qu'est-ce que tu peux nous dire juridiquement d'où en est cette affaire ?
Donc c'est vrai que je ne peux pas trop en dire, mais en tout cas, une enquête est en cours. Oui, je suis effectivement mise en examen. Ce que je sais, c'est que le musée d'Orsay a déposé une plainte contre moi pour dégradation volontaire. Je n'ai pas encore récupéré ma pièce Miroir de l'origine. Je ne sais pas où elle est pour le moment. Je sais que Valley Export n'a pas déposé plainte. Et pour le moment, Bernard Marcadet, heureusement, n'a pas déposé plainte. Je voudrais quand même rajouter que c'est certainement pas par bonne volonté ou gentillesse. De mon point de vue, c'est une position stratégique parce qu'effectivement, pour étouffer l'affaire le plus possible et pour dépolitiser mon geste et surtout, peut-être parce qu'il aurait des choses à se reprocher.
Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait un MeToo dans le monde de l'art, même si donc on se rend compte qu'il y a quand même une grosse chape de plomb parce que c'est un petit milieu ? Est-ce que tu t'attendais à ça après la performance ?
Le milieu de l'art, c'est vrai que d'après ce qu'on me l'a confirmé, qu'il n'y avait pas encore eu de MeToo dans le milieu de l'art. Il y a déjà eu, je pense, des prises de parole, etc. Mais un vrai MeToo, non. Et c'est vrai que j'ai quand même fait un geste avec une performance avec une certaine radicalité. Et le fait qu'il n'y ait pas vraiment... On va dire que voilà, on a parlé de la performance, mais on n'a pas vraiment parlé de MeToo. On a parlé des tags, presque un déni sur la signification du tag, quoi. C'est très révélateur du milieu de l'art contemporain, qui est un milieu extrêmement petit, fermé, et où les rapports hiérarchiques sont encore, il me semble, beaucoup plus flous que dans le milieu du cinéma dont on parle beaucoup. C'est un milieu où, en tout cas, comme moi je l'ai vécu et je pense jusqu'ici, où les rapports hiérarchiques sont complètement brouillés, sous couvert de rapports d'égalité, d'amitié intellectuelle. Tu te retrouves dans des rapports, étant plus jeune, avec des hommes qui ont un pouvoir de vie ou de mort sur ton travail. On gomme les positions hiérarchiques. C'est un milieu très fermé, élitiste, et puis où tout le monde se connaît et les gens ont peur de perdre leur place. Moi, je pense qu'il s'agit beaucoup de ça. Pas que de ça. Je ne sais pas, dans certains cas où des femmes seraient encore sous emprise, etc., je peux aussi le comprendre. Mais en tout cas, il y a un énorme quand même silence qui a suivi tout le bruit de ma performance. Et il y a quelque chose à entendre dans ce silence. Voilà. Pratiquer un clivage misogyne, précariser les femmes artistes jusqu'à les faire céder, dans le but unique d'avoir le sexe plutôt que l'œuvre, économiser sur la prostitution en se positionnant en mécène pour 3 francs 6 sous, nous offrir le privilège de votre expertise artistique afin de rentabiliser sur nos corps exploités, se présenter en bon sauveur en se pensant meilleur homme que les autres, abuser de notre passion et de notre confiance en dénigrant notre puissance créatrice, faire de la charité artistique sous couvert d'amitié intellectuelle, tout cela, et pire encore, pour quelques coups de queue, c'est tout ce que vous valez ? Il faut que cela cesse, c'en est assez, assez, assez. Donc voilà, c'est un extrait de la lettre ouverte que j'ai écrite, qui est adressée aux hommes de pouvoir du monde de l'art. Je dis aussi dans ma lettre, une travailleuse du sexe, ça se paye. Mais tout ça sont toutes des métaphores, des provocations pour faire sous-entendre que ces hommes de pouvoir que j'ai rencontrés participent à un système misogyne où déjà on traite les femmes artistes de façon complètement différente des hommes artistes, puisque pendant que je me faisais inviter dans les chambres à coucher, alors on ne m'invitait pas directement dans la chambre à coucher, mais c'était le but en fait. C'était dans des lieux flous, dans ces zones floues du monde de l'art. Mes collègues masculins, eux, pour certains, quand ils avaient des rendez-vous qui devaient déboucher sur une exposition ou une collaboration artistique, ça se passait. On en arrivait à ça. Moi, ce n'était pas mon cas. Donc déjà, la position dans laquelle les femmes artistes sont mises, il y a quelque chose de dégradant, d'humiliant. Et je parle beaucoup du temps, voilà, du temps que ça a représenté. Enfin, c'est des années de ma vie où en pensant que l'enjeu était celui de mon travail, ben finalement, je me rends compte que l'enjeu était autre. Ça, c'est de l'abus, mais c'est aussi de l'abus psychologique. En tout cas, cette question du vol, elle dit aussi quelque chose de tous ces vols que je viens d'évoquer de façon directe et indirecte, et de la participation de ces hommes à un système, voilà, qui, très concrètement, précarise les femmes artistes, mais les exploite sexuellement dans cette précarité, dans cet isolement, dans cette marginalisation. Et ça, c'est très important à comprendre, et c'est pour cette raison que j'ai volé cette œuvre, qui, encore une fois, appartient à cet homme. Et elle a un coût, cette œuvre a un coût. Et c'est pour attirer l'attention aussi sur... sur cette question très importante, économique, qui est une question de pouvoir, qui est une question politique et qui a permis, qui permet d'ailleurs, les abus de pouvoir, les agressions, les viols, voilà. Just sit and wait.
I'll see you around.